Là, nous trouvons l'union du Verbe greffé dans notre humanité. Nous trouvons, nous voyons et nous goûtons la fournaise de sa charité. Alors, qui suis-je? Vous voyez, ça c'est une question qu'on se pose. Mais moi, ce que je peux vous dire aussi, avec la toute petite expérience qui est la mienne dans l'exorcisme, le démon va tout faire pour mentir sur votre identité. Déjà pour vous, commençons à travailler ça. Qui suis-je? Seigneur, je suis ton enfant bien-aimé. Est-ce que nous y croyons? Ou est-ce que notre premier réflexe, lorsque nous nous regardons dans la glace le matin, c'est de dire autre chose? Nous sommes tes enfants bien-aimés, Seigneur. Alors, eh bien, je vais quand même vous lire encore Sainte Catherine de Sienne. Ça va, vous tenez le choc? C'est pas tous les jours qu'on entend Sainte Catherine de Sienne. Bon, c'est Jésus qui continue à lui parler. Je veux bien que tu vois ton néant, ta négligence, ton ignorance, mais je ne veux pas que tu le vois dans les ténèbres de la confusion, mais à la lumière de la bonté divine que tu trouves en toi. Apprends que le démon ne veut que vous arrêter à la seule connaissance de vos misères, tandis que cette connaissance doit toujours être accompagnée de l'espérance dans la miséricorde divine. Vous voyez ? Ce qui est du démon, le démon veut nous montrer notre misère, mais il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de lumière divine. Donc, c'est l'accusateur. Vous êtes foutus. Ben oui, après tout ce que vous avez fait entre nous. Ben oui, ça c'est la stratégie du démon. Saint François de Sales en a été malade de ça. Il a fait une très grave dépression, vous le savez, et ce qu'il a sauvé, c'est de se trouver au pied de Notre-Dame de Bonne Délivrance, qui était à l'époque un sanctuaire parisien, maintenant il se trouve à Neuilly-sur-Seine. Et là, par grâce, il a pu accueillir la toute-puissante miséricorde de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a parlé de l'abandonnement. Il appelait ça comme ça, ce qu'on a appelé après l'abandon. Ce qui est, en fait, un point essentiel de la spiritualité salésienne de saint François de Sales. Et ça nous a donné la petite Thérèse, dont la tante, comme vous le savez, était religieuse, donc, de saint François de Sales. Alors, sais-tu comment il faut faire? Ce que tu fais quand tu entres la nuit dans ta cellule pour dormir, tu trouves d'abord ta cellule, puis tu vois ton lit. La première chose est nécessaire, mais tu ne t'en contentes pas et tu cherches des yeux le lit où tu dois prendre ton repos. Tu dois faire de même lorsque tu es entré dans la cellule de la connaissance de toi-même. Je veux que tu ouvres l'œil de ton intelligence avec amour, que tu traverses ta cellule et que tu ailles vers le lit de la douce bonté que tu trouves en toi. Car Dieu habite le centre de notre âme, nous dit saint Jean de la Croix. Tu vois bien que l'être t'a été donné par grâce et non par obligation. Vois ma fille, ce lit est couvert d'une couverture de pourpre, teinte par le sang de l'agneau immolé et consumé pour nous. C'est là le lit de ton repos qu'il ne faut quitter jamais. Tu vois qu'il n'y a pas de cellule sans lit et de lit sans cellule, que ton âme se nourrisse de cette bonté de Dieu. Autrement dit, lorsque nous voulons vraiment nous connaître nous-mêmes, il y a en nous un lieu de repos, on ne va pas dire de dodo, mais de repos dans le sens biblique du terme, ou de paix, le sabbat, l'intimité avec Dieu. Autrement dit, ce lieu d'intimité avec Dieu est recouvert du sang de Jésus. C'est là que nous sommes sauvés et que nous pouvons déjà dire nous sommes enfants de Dieu, car tout est accompli sur la croix. Mais tout n'a pas été manifesté, bien sûr. Affaire en cours. 1 Jean 3, 2, bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, nous sommes des fleurs en bouton, pour reprendre l'image du jardin au début du manuscrit A de la petite Thérèse. Mais quand nous allons entrer dans le ciel, la fleur va s'épanouir. Waouh ! On va être vraiment dans l'admiration quand on va se regarder les uns les autres. Donc, dès maintenant, nous pourrons être dans l'admiration, puisque notre regard passe par le regard de Jésus. Et je voudrais pour ça vous citer un tout petit moment, un récit. Lorsque Sainte Thérèse de Lisieux, peu de temps avant sa mort, est à l'infirmerie du Carmel, et évidemment, elle ne peut plus bouger. Mais il y a un prêtre qui s'appelle l'abbé Denis et qui est venu célébrer sa première messe au Carmel. Alors elle demande à voir son calice. Comme elle regardait longuement le fond de la coupe, on lui dit « Pourquoi donc regardez-vous si attentivement le fond du calice ?» Réponse de Thérèse. Parce que je m'y reflète. À la sacristie, j'aimais à faire cela. J'étais contente de me dire, mes traits se sont reflétés là où le sang de Jésus a reposé et descendra encore. Je répète, parce que je m'y reflète. À la sacristie, j'aimais à faire cela. J'étais contente de me dire, mes traits se sont reflétés là où le sang de Jésus a reposé et descendra encore. Alors, je vais juste vous lire un extrait de l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle s'adresse à Dieu le Père. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ces mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Tel est le regard de Dieu sur nous, le regard du Père. Et c'est pourquoi l'Épître des Hébreux, aux Hébreux, nous dit que nous allons nous tenir debout devant le trône du Père en toute assurance. Mais attention, parce que nous avons revêtu l'habit de noces. Rappelons-nous la parabole, il y en avait un qui avait oublié l'habit de noces. Dehors, tu rentres pas. Si tu n'es pas revêtu du Christ, tu ne rentres pas, tu ne tiens pas devant Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et quand, finalement, nous avons revêtu le Christ, nous sommes déjà morts. La mort, elle est derrière nous. Colossiens 3, 3. Considérez que vous êtes morts, et ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Vous voyez ? Notre vieil homme, c'est mort. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut sur notre vieil homme. Oui, t'as raison. T'as raison. Voilà, merci. Merci de m'aider contre mon pire ennemi. Disait Saint François de Sales aussi. Voilà. Alors, comprenez que il s'agit, si nous voulons vivre dans la bénédiction, déjà de nous orienter vers le Père. Alors, ce temps de carême, c'est un temps où la première parole, on nous a dit « convertissez-vous ». Alors, se convertir, ce n'est pas forcément ne plus manger de chocolat pendant 40 jours. Se convertir, au premier sens du terme, c'est se tourner vers. Parce que, je ne sais pas comment vous êtes, mais bon, souvent, trop, peut-être, nous, je, suis, vous, êtes, tourné vers vous-même, et non pas vers le Père. Se tourner vers le Père, et oser croire qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Ça n'est pas un Père fouettard, derrière des nuages, un Père indifférent. Et là est notre conversion. Votre Père qui est au ciel, nous dit Jésus, sait ce dont nous avons besoin. Il est là dans le secret, il écoute notre prière. Et on le verra dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous guette notre retour. Et ça, c'est notre conversion. Vivre tourné vers. Vous vous rappelez la conversion de Marie-Madeleine? Il y en a deux en fait. Il y a la conversion parce qu'elle a quitté sa vie de péché, puis il y a eu un exorcisme, 7 démons. Et puis après, au moment de la résurrection, elle se tourne vers celui qu'elle croyait être le jardinier. Et puis le texte nous dit, elle se tourne vers Jésus qui l'appelait Marie. Et le nom, comme vous le savez, c'est votre identité, c'est notre identité. C'est pour ça qu'on le reçoit au baptême. On l'avait dit la dernière fois. Alors, convertissons-nous, oui, et convertissons-nous, vivons tournés vers Dieu. Et il y en a qui me disent, mais si vous êtes complètement dans les nuages, vous n'êtes pas dans le réel, ben, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous vous tournez vers Dieu, vous êtes encore plus dans le réel, puisque c'est lui le Créateur. Non mais, c'est pas nous le Créateur, c'est lui. Si vous êtes en Dieu, lui, il va vous renvoyer dans le réel. Et ça sera justement ça, votre critère pour savoir si vous êtes vraiment avec Dieu. Oui, si vous faites plein d'exercices spirituels, et en dehors de ça, vous êtes imbuvable. Et puis vous jugez, vous faites le jeu du démon, l'accusateur. Hein. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pas converti. Convertissez-vous et croyez que vous êtes aimé. La bonne nouvelle, vous êtes aimé, nous sommes sauvés. Sauf que ce n'est pas automatique. Il y en a qui me disent, on ira tous au paradis, ne vous inquiétez pas. Ben, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que ce n'est pas ce que la Sainte Vierge a dit à Fatima, entre autres. Bon. Mais en fait, nous, on a une chose à faire, c'est croire. Et croire, ça veut dire adhérer. Et adhérer, ça veut dire vivre avec. Et voilà. Bon. Alors, donc vivre dans la bénédiction, c'est un certain regard aussi sur nous-mêmes. C'est aussi un certain regard sur les autres, bien sûr. Quel est notre filtre lorsque nous nous regardons les uns les autres? Quel est notre filtre? Alors, je propose que notre filtre soit celui que Sainte Thérèse prenait pour se regarder elle-même. Invoquons le sang de Jésus dans notre quotidien et que nous regardions les autres à travers le sang de Jésus. Moi, j'ai toujours été frappé, vous savez, dans la conversion d'André Levé. Vous avez entendu parler d'André Levé, c'est un Mayennais, voilà. Bon, André Levé, c'est un homme qui avait très mal tourné, enfin, il avait tué aussi. Bon, il se trouve en prison, et puis il y avait une belle amitié entre un prêtre et lui qui était né bien des années avant, mais le prêtre était resté fidèle. Et puis il était en prison. Et puis, il y avait des chrétiens qui lui avaient donné une Bible, et lui, bof, dans un refus, toujours. Puis un jour, bon, il en a assez, et bon, il dit, Jésus, si tu existes, rendez-vous cette nuit. Voilà. Et puis, eh bien, il s'endort, et puis il se fait réveiller pendant la nuit. C'était Jésus. André, nous avons rendez-vous. Et moi, je me rappelle que Jésus lui dit une chose. « Tu m'as tellement coûté. Tu m'as tellement coûté. » Jésus nous dit ça à chacun de nous, parce que ce n'est pas gratuitement qu'il nous a arraché, c'est déjà fait. Il nous a arraché aux puissances des ténèbres, Colossiens 1:13. C'est accompli. Tu m'as tellement coûté. Et sur la croix, c'est pour moi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour un nous collectif, personnel, qu'il est mort. Galates, au chapitre 2, je crois. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, dit saint Paul. Attendez, saint Paul, il n'a jamais rencontré Jésus du temps de son vivant. Il l'a rencontré ressuscité après. Et il dit, il m'a aimé, moi, et s'est livré pour moi. Il n'a pas dit pour nous. Alors que ça soit inscrit dans nos cœurs. Et alors, nous allons apprendre à vivre dans la bénédiction, oui. C'est-à-dire, sous ce regard bienveillant du Père, sous le regard de Jésus. Et ça, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle la vertu de simplicité de l'enfant Jésus. Pour ceux qui étaient là lorsqu'on a parlé des vertus de l'enfant Jésus révélées à Sainte Marguerite du Saint-Sacrement à Beaune, le Carmel de Beaune. Dans les vertus de l'enfant Jésus, il y a la vertu de simplicité, vivre sous le regard du Père. Et non pas sous notre propre regard. Alors vous voyez, on a compris que cette conversion, elle se faisait déjà dès le matin devant notre glace. Comment est-ce que je me regarde pour pouvoir regarder les autres après, avec le regard du Père, et donc en exerçant les vertus de foi, d'espérance et de charité. Et il y a une autre vertu de l'enfant Jésus, de Beaune, que nous allons exercer si nous vivons comme cela. C'est la vertu d'innocence. L'innocence, ça veut dire ne pas s'intéresser au mal, ne pas en parler, ne pas le regarder. Alors, ça n'est pas une naïveté, vous comprenez, parce que nous devons discerner ce qui est mal, toujours en distinguant le pécheur du péché, mais sans nous y attarder, ni nous laisser salir par lui. Parce qu'à force de remuer la boue, on en prend plein la figure. Est-ce que c'est clair, la vertu de l'innocence? On discerne, et stop, on ne s'y intéresse pas. Et pareil, si vous voulez, lorsque nous constatons nos besoins de délivrance, à force de regarder ça et de regarder dans tous les sens, on ne voit plus que ça, et vous faites partie des obsédés, mais des obsédés plutôt psy que spi. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon, parfois je suis un peu cash, je vous en demande pardon. Alors, c'est vrai qu'on va fonctionner avec la vertu de foi, parce que pour voir vraiment qui est mon prochain, ben j'ai besoin de la foi qui me dit... Cet homme, cette femme, c'est une créature divine qui porte en lui, en elle, l'image et la ressemblance de Dieu. C'est celui, celle, pour qui Jésus a livré sa vie. Et c'est une merveille, psaume 139, merveille que tes œuvres. Alors, on va essayer, enfin en tout cas, on va regarder au-delà, au-delà de l'apparence. Si je ne vois que les piquants chez l'autre, c'est dommage. Je ne vais pas voir le fruit à l'intérieur. Parfois, si vous avez goûté, par exemple, les figues de Barbarie, c'est quand même assez... Il faut prendre des gants. Hein. Mais à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Bon, alors, je ne vous dis pas que vous êtes une figue de Barbarie. Et que... Mais vous voyez, la foi. Alors, je voudrais juste vous lire un petit extrait du manuscrit C de Sainte Thérèse de Lisieux. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu aussi. Ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors, je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Alors, à chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire et je tâchais de détourner la conversation, car il est dit dans l'Imitation, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Écoutez la suite, c'est un peu long, mais c'est quand même sympa. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures de travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Comme elle ignorait absolument ce que je sentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles, d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi ? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Réponse. « Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. » Je lui ai répondu que je souriais parce que j'étais contente de la voir, et elle ajoute entre parenthèses, bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était au point de vue spirituel. Voilà. Alors, comment on arrive à ça ? Est-ce que Sainte Thérèse nous enseigne, vous voyez ? Eh bien, déjà, son truc, Sainte Thérèse, elle demande au Père de la regarder toujours à travers la sainte face de Jésus. Et lorsque vous entendez la sainte face, c'est le cœur. Pourquoi Thérèse a préféré le symbole de la sainte face au symbole du cœur ? Parce qu'elle dit que la sainte face, c'est vraiment plus parlant que le cœur. Donc, cette dévotion de la sainte face qui date en fait de la sœur Saint-Pierre, là. Bref, donc de Tours, et ce qui a donné lieu avec le monsieur Dupont, le saint homme de Tours, à l'érection d'un sanctuaire à Tours qui était plus couru au 19e que Ars, tellement il y avait de guérison. Donc c'est la dévotion à la sainte face. Et la petite Thérèse et sa famille faisaient partie de la confrérie de la sainte face. Alors, dire que à Dieu, mais qui ne nous regarde, qui ne me regarde qu'à travers la sainte face, c'est qu'à travers le cœur aimant, ses yeux pleins d'amour. Et elle disait, mais heureusement qu'il a baissé les yeux, parce que sinon, on serait mort d'amour devant la sainte face. Voilà. Alors, c'est une position aussi, une position qui est celle de la bénédiction. Et vous voyez qu'on n'est pas dans une forme de naïveté un peu bébête, mais on est dans l'exercice des vertus de l'enfant Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous accueillons véritablement notre identité d'enfant de Dieu, alors nous pouvons entrer dans une relation ajustée aux autres, qui sera toujours une relation de bénédiction. Alors vous savez, le New Age nous a volé quelques bons arguments. Vous savez que si vous êtes coach en entreprise, moi j'avais appris ça dans le temps, et que vous voulez faire des reproches à des collègues, ben, vous commencez par 10 qualités et ensuite un défaut. Après 10 qualités, ensuite un défaut. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Mais vous voyez, ça c'est biblique. C'est-à-dire que notre 10 qualités, c'est d'être celui, celle que Jésus désire et pour qui il verse encore son sang aujourd'hui sur tous les autels de la terre. Voilà. Saint Isaac, le Syrien, étend ton manteau sur celui qui tombe dans la faute et couvre-le. Et si tu ne peux pas prendre sur toi les fautes d'autrui et recevoir le châtiment et la honte à sa place, fais au moins patience et ne le déshonore pas. Convertissez-vous et croyez. Alors, à la base de tout ça, évidemment, on pourrait développer beaucoup, beaucoup. C'est le temps qui nous manque. Si nous voulons vivre en regardant le monde à travers le sang de Jésus et nous regarder nous-mêmes, alors effectivement il nous faudra accueillir cette conversion de bénédiction par la prière. Par la prière. Notre prière a peut-être aujourd'hui besoin aussi de conversion. Parce que trop souvent, notre prière est une prière d'abord soit récitée, je dis des prières, mais est-ce que quand tu dis des prières, est-ce que tu pries ? Question. Ou alors nos prières, c'est une liste, Seigneur, j'ai besoin de ça, ça et ça. Notre prière, c'est d'abord une prière d'action de grâce, de foi, notre Père, qui est aux cieux. On s'intéresse à lui d'abord. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté. On s'intéresse à lui d'abord, parce que si on s'intéresse à lui, on sera heureux. Mais si on commence à dire, notre Père, que ma volonté soit faite, que mon règne vienne, etc. Bon, enfin bref. Philippiens 4. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Notre prière doit se convertir. Est-ce que quand nous demandons quelque chose, nous rendons grâce ? Est-ce que avant même de demander, on dit « Seigneur, je te bénis, parce que tu es mon Dieu, et tu es le Tout-Puissant, et moi je veux vraiment le proclamer dans ma vie ?» et dans la situation difficile que je traverse. 1 Thessaloniciens 5, connaissez ça par cœur. Soyez toujours joyeux, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Bon, pour ceux qui ont vécu les débuts du renouveau charismatique, ça on connaissait par cœur. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Toutes choses vont des grâces à Dieu. Vous avez connu tout ça. Et en fait, il y avait un livre clé, c'était Merlin Carothers, je vous le dis avec l'accent. Et ça s'appelle La puissance de la louange. Puis on lisait La croix et le poignard, David Wilkinson, vous voyez. Ça, c'était extraordinaire. Vous l'avez lu, j'espère, La croix et le poignard. Bon, c'était des grands classiques du début de renouveau. Cet homme qui était évangélique, un fils de pasteur évangélique, on lui disait, tu regardes trop la télé. Je lui dis, il était pasteur quand même, hein, donc responsable d'une communauté chrétienne. Et puis, je fais un deal avec Dieu. Si vraiment je regarde trop la télé, Seigneur, je fais un deal avec toi. Je vais vendre ma télé et puis je te donne des conditions. Je te donne une heure pour que la télé soit vendue et sans discussion, d'accord? Donc, vous voyez le truc impossible, quoi. Donc, hop, au moment de l'apparition du journal, il met le réveil. Et puis, 50 minutes, toujours rien. 55 minutes, toujours rien. Puis, il disait, bon, voilà. Et puis, à la dernière minute, un appel. J'achète votre télé. Vous voulez même pas la voir? Non! Sauf qu'il avait fait la promesse qu'au lieu de regarder la télé, pendant le temps précis où il regardait la télé, désormais il allait prier. Donc il était en train de prier tous les soirs. Puis le matin, je ne vous dis pas, hein, le nombre d'heures de prière. Et jusqu'au jour où, il se convertit. Pourtant, il était croyant, hein, mais là il se convertit, Dieu d'abord. Et si un jour vous pouvez dire Dieu d'abord, sans que ça lèse évidemment vos voisins, parce que dans ce cas-là, c'est faux, Dieu n'est pas d'abord. Eh bien, là, vous commencez la conversion. Conversion. Et ce qui lui est arrivé, c'est extraordinaire, parce qu'un jour, il tombe sur un journal où il est question d'un procès pour des jeunes drogués, vous savez, dans les bas-fonds de New York à l'époque. Et il est pris d'une compassion extraordinaire jusqu'à pleurer, quoi. Puis il se dit, il faut que j'aille à ce procès. Et puis il y va. Et puis ça continue, une compassion, mais pas possible. Et du coup, il décide d'y aller dans les bas-fonds de New York. Alors petit gringalet, il n'est pas très sportif. Et puis il se retrouve devant une baraque, drogué, qui faisait leur truc, vous voyez. Et là, il sent une force extraordinaire pour parler à la baraque qui s'est convertie. Et il s'appelle comment celui-là ? Nicky quelque chose là. Enfin voilà. Donc ça a donné lieu à une œuvre qui s'appelle Teen Challenge, qui est devenue internationale. Voilà. Alors, pour nous, la conversion, ça va se passer effectivement devant Dieu. Dieu premier servi, n'attendez pas le soir pour parler à Dieu, que ce soit en permanence, j'allais dire, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire faire des prières, ça veut dire respirer Dieu, quoi. On est fait pour vivre en Dieu. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller au ciel, il paraît que c'est super là-bas. Enfin, ceux qui en sont revenus, ils nous disent ça, quoi. On y croit. Au ciel, on respire Dieu. Et là, on meurt de ne pas respirer Dieu assez. Vous voyez ? On a envie d'y aller, quoi. Alors, quelques petits trucs qu'on va reprendre aussi la prochaine fois, parce que, évidemment, c'est difficile de tout vous dire en si peu de temps. Il s'agit d'avoir une vraie vie de prière. Donc, nos prières plus ou moins magiques, là je récite mes prières, les prières efficaces, s'il vous plaît, à la poubelle. On n'en veut pas de ces trucs-là. On les trouve sur Internet, la prière en cas de machin, en cas de truc. Bon, soyez prudents avec ces prières-là, parce que ce n'est pas de la magie la prière, vous comprenez? C'est une question de foi. Est-ce que tu crois? Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais si vous rédigez la prière à un truc récité, mais en fait, vous êtes les premiers à vous ennuyer. Il y a des gens, ils ne sont pas contents quand la messe dure plus d'une heure. Mais moi, je les comprends, parce que c'est une liturgie avec des chants, etc., moches comme ça, on a du mal. Mais si vous mettez tout votre cœur dans tous ces chants, dans toute cette liturgie, alors vous allez arrêter le prêtre à la sortie et lui dire « la messe, ça a été trop vite ». Parce que la messe, on a envie que ça dure. Moi, j'aime assez... Bon, c'est une confidence que je vous fais, pardonnez-moi, je me lâche. Mais j'aime beaucoup la liturgie orientale. J'ai un faible pour la liturgie orientale. Dans notre famille, on a tous failli se convertir à l'orthodoxie. Parents et enfants, dans les années 70. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas mal fréquenté les pères orthodoxes. Olivier Clément, Paul-Ève Dokhumov, bon, des gens modernes comme ça, mais des gens plus anciens comme Saint-Silouin du Mont Athos. Ah, quelle force! Bon, Jean-Paul II, après, il a dit c'est le poumon aussi de l'Église, hein, le poumon oriental. Et en fait, ce que j'aime bien chez les orthodoxes, c'est que la liturgie, il faut que ça dure. Parce qu'on est déjà dans l'éternité. Si vous avez été à la messe, dans le rite byzantin, on utilise des espèces de petites clochettes. Là. Ça veut dire les ailes des anges. Alors au début, bon, surtout on est debout tout le temps. Et en fait, on est entraîné. Ça, c'est la prière. Si vous dites la messe, ah, c'est trop long, machin, attendez. Si on aime le Seigneur, quoi. Seigneur, premier servi, qu'on soit toujours avec lui, dans l'amour. Il est amour, il est lumière. Est-ce que nous voulons vivre dans l'amour? Est-ce que nous voulons vivre dans la lumière, dans la vérité? J'espère que oui. Dans ce cas-là, remplacez amour et vérité par Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu, c'est-à-dire dans la prière perpétuelle, prier sans cesse. Donc, on est bien d'accord, la prière, c'est d'abord une attitude de cœur. Voilà. Alors, quelques petites clés pour notre vie de prière. La parole de Dieu. Vivons avec la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. C'est très fort. Les psaumes. Enfin, je vous ai raconté cette histoire d'un homme qui était venu donner son témoignage quand j'étais dans le Grand Ouest. Donc, les exorcistes, on se réunissait une fois par an, ensemble, et on a fait venir un homme qui nous a raconté sa délivrance. Bon, en fait, c'était un peu psy, mais c'était spi aussi. C'est-à-dire qu'il y avait de la malédiction sur sa ferme, rien n'allait, et puis ça fait qu'il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Donc les médicaments, ça n'est rien de rien, et ce qui l'a sauvé, c'est de lire la Bible pendant 3 semaines. Et il en a témoigné. Proclamer la parole de Dieu, pas simplement la lire, la proclamer. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Vous voyez, des paroles phares comme ça qu'il faut répéter. Donc la parole de Dieu. Deuxième point, la prière, et dans la prière, une prédominance de la louange. De la louange. Forçons-nous un petit peu, forçons un peu la dose. C'est-à-dire, moi je vous invite à faire un bilan aujourd'hui, c'est le carême. Donc, votre prière du matin, quelle est la proportion de louanges par rapport au reste? Donc, bon, c'est juste une question comme ça. Matthieu 11, verset 24. Je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Donc, soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Ben oui, cela nous est accordé. Bon, ça sera peut-être dans 20 ans, comme Sainte Monique, qui priait pour la conversion de Saint Augustin. Mais enfin, vous pouvez se réjouir. D'ailleurs, quand tu te convertiras, moi, je suis très contente. Voilà. Il y a aussi une parole qu'il nous faut vraiment bien ruminer, c'est Romains 8, 28. Vous voyez ce que je veux dire ? Romains 8, 28. Tout concourt à au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Donc, quand tu reçois une tuile en sortant de chez toi le matin, eh ben, tu peux rendre grâce. Alors, pas pour la tuile, évidemment, mais pour tout ce que Dieu va faire à travers cette épreuve. Et vous allez voir que si nous nous convertissons de cette façon, on retire au démon un pouvoir qu'il n'a pas. Parce que si c'est le démon qui s'est débrouillé pour que vous receviez un râteau dans la figure, eh bien, vous avez la foi et vous allez proclamer tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette épreuve, Seigneur, eh bien, je viens la vivre avec toi. Vous voyez ? Et je proclame ta victoire sur cette épreuve. Alors, lisez La puissance de la louange, hein, ce grand classique. Lui, il était toujours comme ça. Il a raté son avion. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sauf que l'avion s'était écrasé. Il valait mieux le rater, hein. Bon, enfin, vous allez me dire que c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel, certes, mais on peut recevoir des épreuves qui apparemment ne sont pas bénéfiques. Sauf que, comment nous vivons l'épreuve ? Est-ce que nous le vivons en nous recroquevillant sur nous-mêmes, et moi, et moi, et moi, la pauvre victime ? Ou alors, est-ce que nous les vivons en disant « Bienheureux les pauvres, Seigneur, tu m'as dépouillé encore ?» Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez lu ça dans l'histoire de Job. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que sa femme lui disait « Mais maudit donc Dieu et meurs !» Chapitre 2. Bon. Non, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que la sagesse de Dieu, il peut faire que tout concourt au bien, même notre mort. Même notre mort. Et ça, c'est la mort chrétienne. Le jour de notre mort, de nous cacher dans la mort de Jésus. Jésus, tu as fait de ta mort une offrande de bonne odeur. Alors moi, je me cache dans cette offrande pour être moi-même une offrande de bonne odeur. Et je vous promets, et ça je l'ai vécu, c'est pas des blagues, que la mort d'un vrai chrétien, ça ouvre le ciel. Et il y a plein de grâces qui descendent. Moi, je l'ai vécu, je vous promets. Je peux vous donner plusieurs exemples des grâces. Parce que ces gens, ils ont traversé le Jourdain parce que Jésus est passé devant. Et ils ont ouvert le ciel encore pour nous. Vous voyez d'où l'importance d'être dès maintenant avec lui. Parce que nous sommes baptisés dans sa mort et sa résurrection. Donc toutes nos épreuves, nous sommes baptisés dans sa mort. Donc c'est Jésus qui vient vivre l'épreuve en nous et en donner tout le sens. Vous savez, à la fin de sa vie, Saint François, il était très mal physiquement. Il s'était brûlé les yeux en allant visiter le sultan, là, en Moyen-Orient. Il a été jusqu'en Égypte. Bon, et puis, il souffrait beaucoup, quoi. Et puis, quand on lui disait, on essaie de le plaindre, il disait « Quelqu'un souffre ». Il ne disait pas « Je souffre ». Parce que, en Dieu, le « je » se traduit par « nous ». Jésus dit « Nous souffrons ». Et Jésus pleure des larmes de sang. Et la Sainte Vierge aussi. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est fidèle. Il ne nous laisse pas orphelins. Donc, la louange, tout le temps. Vous avez dit tout le temps ? Oui, tout le temps. Alors, il faut citer... Il y a plein de trucs à citer. Vous me donnez encore 5 minutes ? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein. Les actes des apôtres, Les Actes des Apôtres, je rappelle le contexte, on est à Philippe, c'est en Grèce, et Paul avait exorcisé une servante qui était habitée par un esprit divinateur, et elle faisait gagner pas mal d'argent à ses maîtres. Sauf que quand elle exorcisait, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et donc, il y a une émeute, etc. Et les pauvres Paul et Silas sont mis en prison, dans le fin fond de la prison. Et aux environs de minuit, ils chantent les louanges de Dieu, alors qu'ils s'étaient fait battre. On avait bloqué leurs pieds. C'est pas très pratique, hein, avoir les pieds bloqués dans le fond d'une prison. Et c'est là que tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent. Et ben, vous connaissez l'histoire. Voilà, toutes les portes s'ouvrent et à l'instant même, les entraves de tous les prisonniers sautent. Et le geôlier a failli se donner la mort. Alors, il y a évidemment la conquête de Jéricho. Josué, chapitre 6. Le Seigneur dit à Josué, « Vois, je t'ai livré Jéricho et son roi, ses vaillants guerriers. Et vous, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville, faisant le tour de la ville une fois. Ainsi feras-tu 6 jours durant. 7 traîtres porteront les 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous tournerez autour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne du bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Le rempart de la ville tombera sur place. Et le peuple montera chacun droit devant soi. » Donc, Josué 6. Et encore une illustration de la puissance de la louange. Nous sommes faits pour louer. Et comme nous rentrons dans notre vraie identité, Éphésiens 1, on a été créé pour « à la louange de Dieu, à la louange de gloire de sa grâce ». C'est comme un refrain dans Éphésiens 1. Alors, si nous sommes vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire des louangeurs, alors les murailles de Jéricho tombent. Vous y croyez? J'espère. Alors moi, j'ai juste un tout petit témoignage à faire par rapport à ça. C'est le témoignage d'un couple que j'ai marié il y a quand même maintenant un certain temps. Et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant au moins 3 ans après leur mariage, alors qu'au niveau médical, tout était normal. Alors on avait accueilli dans un lieu spirituel de l'époque, là en Mayenne, le père Rémi Chapacher, que vous connaissez sans doute, et qui leur a simplement proposé de changer leur façon de prier. Que « Seigneur, on voudra un enfant, Seigneur, on voudra un enfant », et puis « change de disque ». Et il leur a proposé, au lieu de demander la guérison de cette anomalie, et il leur a proposé la prière de Jéricho. Prière où tu proclames la louange du Seigneur. Vous regarderez hein, sur Internet la prière de Jéricho, mais bon, voilà, le psaume 145, et puis voilà, on peut jeûner un petit peu, enfin, etc. Et figurez-vous que ça m'avait quand même frappé, ça. On était exactement en novembre 2011. Pile poil 9 mois après, elle a accouché de son premier. Et pile poil 1 an après, la Providence. C'est moi qui ai eu la chance de baptiser ce petit. Donc, je vous conseille la prière de Jéricho. La louange, la louange, la louange. Arrêtons de nous plaindre à Dieu. Allons jusqu'au bout de notre foi. Seigneur, je souffre, oui, mais toi, tu es le Tout-Puissant. Je proclame ta victoire. Si Seigneur, je souffre, moi, Seigneur, je, moi, c'est pas une prière. C'est une auto-malédiction. Ok. Alors, on pense évidemment aux 3 jeunes dans la fournaise. Daniel 3. Eux, ils n'ont pas arrêté de louer Dieu alors qu'ils étaient dans la fournaise. Résultat des courses, eh bien, même pas leurs cheveux ni leurs vêtements n'étaient brûlés, alors que les 3 hommes qui les avaient jetés dans la fournaise étaient morts, parce que c'était trop chaud. Voilà. Alors, lorsque nous sommes dans nos fournaises, pensons à louer le Seigneur et à proclamer sa victoire. Ça, c'est le béaba de notre vie avec Dieu. Voilà, voilà. Alors, vu l'heure, hélas, on va s'arrêter là. Mais je voudrais quand même, avant de finir, terminer. Vous allez retenir juste les 5 points que donne la Sainte Vierge à Medjugorje. Oui, je sais, ces apparitions ne sont pas encore reconnues par l'Église, sauf que l'Église a reconnu Medjugorje comme un lieu de pèlerinage. D'accord ? On peut organiser des pèlerinages maintenant diocésains à Medjugorje. Donc, je vous rappelle les 5 points de Medjugorje. On a traité les 2 premiers. Donc, premier point, la parole de Dieu, tous les jours, sur notre cœur et sur notre bouche. La prière, bon, elle recommande le rosaire, on en parlera la prochaine fois. Donc la louange, le rosaire bien sûr, l'adoration, on en parlera la prochaine fois. Et le jeûne qui accompagne la prière, vous savez que dans l'Église, dans la première Église, le premier siècle, on jeûnait le mercredi et le vendredi. Bon, chez les orthodoxes, toujours un peu cette notion-là. Pourquoi le mercredi ? Parce que le mercredi, dans la semaine sainte, c'est la trahison de Judas. Donc, le jeûne au pain et à l'eau, moi je vous recommande le pain d'épeautre. Voilà, c'est très bien. Parce que le jeûne va donner de la force à la prière. Si vous dites, je suis trop vieux, trop malade pour jeûner, eh bien, jeûner de télévision, jeûner de cigarettes, jeûner de jurons, enfin, jeûner d'autre chose, quoi. Et puis, donc, l'abstinence, ça existe. Pas de sucre, pas de bonbons, etc. Enfin, bref, vous aurez des idées, mais le jeûne, c'est très puissant. Si le jeûne accompagne votre prière, c'est autre chose. Le jeûne. Ensuite, c'est 2 sacrements que la Sainte Vierge nous recommande. C'est le sacrement de réconciliation. Elle nous dit minimum une fois par mois. Bon, vous êtes des pros, donc vous faites plus que ça sans doute, mais une fois par mois. Bon, quand vous sentez que ce n'est pas suffisant, allez-y. Moi, je sais que dans des périodes troublées, ça peut aider d'y aller même tous les jours. Moi, ça m'est déjà arrivé d'y aller tous les jours, dans des périodes d'épreuve. Ah oui, parce que c'est un exorcisme. Là, si vous voulez être délivré, confessez-vous. Vous allez voir. Waouh, c'est extraordinaire. Et puis, évidemment, l'Eucharistie. Les 5 points. On va s'arrêter là et on va encore donc se tourner vers la Sainte Vierge, si vous voulez bien. Apporta l'annonce à Marie.
Et elle conçut de Saint-Esprit.
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il ne soit fait selon ta parole.
Et le Verbe en elle s'est fait chair.
Et elle a pris
la main. Je vous salue.
Marie pleine de grâce, le Seigneur avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons enveloppés des promesses de notre Dieu.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Et que le Seigneur bénisse notre repas, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Alors, au cours du repas, un certain nombre, vous allez rentrer dans le préau, mais tout le monde ne tient pas au rez-de-chaussée. Donc, il y a aussi à l'étage, à 3, à l'étage.